Comme je l'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, on va continuer l'étude sur les bénédictions qu'on reçoit en Jésus. Puis aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure. À part d'être pardonné, c'est sûr que c'est super hot là, de dire qu'on est pardonné, on se sent sauvé, on a l'espérance. Mais le moment où est-ce qu'on va rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on va être ressuscité physiquement, là, ça va être spécial. Dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui dit qu'on va être comme des veaux qui sont dans une étable. On va sauter et on va crier de joie parce que la course va être finie, les efforts, les combats, les luttes. Le titre du message, c'est dans les bénédictions qu'on a en Jésus. Parce que ça, c'est ce qu'il faut toujours ramener, hein, parce que si on est sauvé, c'est à cause du Seigneur. C'est pas à cause qu'on est meilleur, c'est pas à cause qu'on a fait beaucoup de bonnes actions, qu'on a gagné notre place, pas du tout. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi dans le Messie. On n'a pas de mérite. Après que tu aies été sauvé, tu vas en faire des œuvres. Tu vas démontrer ta foi, mais c'est pas tes œuvres qui vont te sauver parce que t'as un gros bagage d'œuvres, puis je pense qu'il va me donner le tapis rouge. Non, pas du tout. C'est à cause de notre foi dans le Messie. C'est lui qui a ouvert un nouveau chemin. On n'a pas eu le choix. Si tu veux aller à Dieu, faut que tu passes par Jésus. Mais une fois que t'es connecté au Seigneur, que t'es rentré dans son chemin, puis que tu marches avec le Seigneur, mais là, il y a des promesses, des bénédictions qu'il nous a promis. Puis une d'entre autres, c'est qu'il nous a dit qu'il nous ressusciterait. Yeshua nous ressuscitera pour être avec lui éternellement. Ça avec, c'est un gros mot. Parce que la notion de vivre une vie éternelle, on le comprend pas parce que nous autres, on a un commencement et une fin. Mais quand on va tomber dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Tu rentres là, puis tu vas toujours rester là. Tu peux pas sortir même de là. L'éternité a pas de fin. Fait que quand on va rentrer dans la vie éternelle, c'est une vie, on pourrait dire, sans fin, à l'infini. Ici, on les compte nos jours. La partie du premier jour qu'on est venu au monde, chaque journée, on peut y compter, puis le dernier jour qu'on va être sur cette terre, on peut même le savoir, la date. Mais quand tu quittes ça, tu tombes dans une vie qui n'a plus jamais de fin. Puis c'est ça que Dieu veut nous donner. Prendre conscience qu'on s'en va dans la vie permanente. Puis on est en train de ramasser ce qui va nous rester comme récompense, là, ce qui va nous rester pendant cette vie permanente-là. Le chemin ouvert par le Messie nous permettra d'être un jour ressuscité corporellement. Dans 1 Thessaloniciens 4:14, ça nous dit, « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, » on parlait de ça un peu avant réunion, « Es-tu réincarné? » Non, il ne s'est pas réincarné en autre chose. Il était encore Jésus. Il était, son nom c'est Yeshua, il était encore Yeshua, il était encore conscient d'être ce qu'il était dans son corps permanent. Il est ressuscité. Voyons, j'ai un chat dans la gorge, ou du poil de chat, un des deux. Il est ressuscité dans un corps, dans son corps permanent. Après ça, il est apparu souvent à du monde, puis même 2000 ans plus tard, il apparaît encore à des gens, puis c'est encore dans son corps permanent. Puis même qu'on arrive là, nous autres, on va le voir dans son corps permanent, puis nous-mêmes, on va avoir un corps permanent, un corps qu'on sortira plus de ce corps-là. On va rester nous-mêmes, puis je vais avoir me rappeler de certaines affaires que j'ai vécues. Puis peut-être que j'espère qu'il va effacer toutes les pas bonnes dans ma tête, parce que je veux pas penser aux pas bonnes, je veux juste penser au bon moment qu'on a eu avec le Seigneur. Mais dans le verset, dans 1 Thessaloniciens, il dit, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Parce que depuis 6000 ans qu'il y a du monde qui vivent sur la terre, puis là-dedans, il y en a qui ont cru aux promesses de Dieu, puis il y en a qui n'ont pas cru. Puis le monde qui ont cru, ils sont sauvés. Ça fait 6000 ans qu'il y a du monde qui sont sauvés. Je te dis pas que tout le monde est sauvé. Je te dis qu'il y a du monde qui ont cru aux promesses de Dieu, puis attendaient le Messie, parce que c'était promis à Adam et Ève qu'il viendrait un Messie, qui viendrait écraser la tête du serpent. Puis ils ont cru au Messie, ils ont cru comme Abraham, qui a cru aux promesses de Dieu qu'il avait aussi pour lui. Puis il est sauvé, puis Dieu avait déclaré, « Mon juste vivra par la foi ». Si tu crois, puis t'es sauvé, tu vas faire partie de ceux que Dieu va ressusciter. Ça dit, nous croyons que Dieu ramènera. Il va nous ramener. Une résurrection, faut qu'il aille te chercher, toi qui es mort, qui n'existe plus. Peut-être ça va faire 500 ans qu'une personne est morte, 1000 ans qu'elle est morte dans la terre, enterrée, mangée par les vers. Il reste plus rien, ou à passer au feu, puis tout est désintégré en poussière. Puis Dieu va ressusciter les personnes, il va les ramener à la vie. Parce que le mot ressusciter veut dire ramener à la vie. Les morts vont être ramenés à la vie pour rester dans un corps qui va être éternel, puis ils vont être pleinement conscients d'être devant le Seigneur à ce moment-là, puis de vivre l'histoire qui va se dérouler éternellement. Ça, c'est spécial, parce qu'il n'y a pas rien sur la planète qui est plus grandiose que cela. Ben beau d'avoir 100 000 piastres ou 1 million à la banque, avoir une belle maison, puis avoir un char, si tu perds ton âme, que ça donne quoi? À quoi ça sert? Jésus le dit, à quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? Qu'est-ce qu'on va être capable de donner en échange de notre âme? C'est ça que Jésus a dit. La seule affaire qu'on peut faire, c'est d'y remettre entre ses mains pendant le temps présent, puis de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie, prends mon être tout entier, guide-moi, je veux marcher avec toi, parce que je le sais, ta parole le dit, qu'un jour tu vas me ramener à la vie, puis je vais vivre éternellement avec lui. Ceux qui pensent à dire, moi je veux être réincarné sur la terre, ça va donner quoi, puisque la terre va être détruite? Il ne restera plus rien. C'est même dit que la terre et le ciel vont disparaître comme un vieux livre que tu roules, comme un vieux manteau. Puis ça va disparaître, puis il n'y aura plus de place. Ça veut dire, tu as beau être réincarné, c'est pas ça. Il dit qu'il va nous ressusciter, puis il va nous amener sur un nouveau ciel ou une nouvelle terre, ce qu'on appelle le paradis de Dieu. Amen. La croyance de la résurrection, ça existait avant que Yeshua n'en parle. C'était pas une nouveauté, puisqu'il en parlait déjà dans l'Ancien Testament. Comme qu'on le sait, l'Ancien Testament, ça a été écrit avant que Jésus vienne. Puis ça l'annonçait des choses sur qu'est-ce que Dieu voulait faire dans la suite. Ça annonçait, entre autres, qu'il viendrait un Messie. Mais, entre autres, ça l'annonçait qu'il viendrait une résurrection. Puis les gens, dans le temps de Jésus, savaient, ils étaient déjà au courant de cela, qu'il y aurait une résurrection. Avant même que Jésus n'en parle, on le voit cet exemple-là dans Jean chapitre 11 au verset 21. Quand Jésus est arrivé, puis Lazare, son frère, son ami était mort, Lazare, puis Marthe et Marie sont venus, puis on parlait avec le Seigneur, puis tout le monde était triste. Puis là, Jésus lui a dit des choses, mais regardez ce bout d'histoire-là. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant, même, je sais que si tu demandes à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il donnait ça de même, là. Fais-toi-en pas, ton frère va ressusciter. Elle a dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là, Jésus dit, il va ressusciter, mais elle a dit, je le sais. Qui va ressusciter au dernier jour, comme c'est une affaire qu'elle n'y apprenait rien. Elle a dit ça, elle pensait de rien apprendre. Mais Jésus voulait être plus précis sur cela. Il ne parlait pas d'une résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus est celui qui ressuscite les autres. Il dit, « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Puis quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Le point que je voulais souligner là-dedans, c'est de vous dire que c'est pas nouveau de croire en la résurrection. C'était même pas nouveau de croire en la résurrection dans le temps de Jésus, puisqu'elle-même a dit, « Je le sais qu'il va ressusciter au dernier jour. » Mais Jésus, lui, voulait plus que ça. Il dit, « Je suis la résurrection. » Jésus avait l'intention de ressusciter Lazare, drette là. C'est ce que la Bible a dit, si vous allez lire le texte. Jésus a ressuscité Lazare, drette là. C'était quelqu'un qui était déjà dans le sépulcre, dans le tombeau, depuis 4 jours, puis il sentait déjà le pourri. Puis là, Jésus leur a dit, « Lazare, sort! » Puis là, le gars, il est ressuscité, puis il est sorti de là. Intact. Il sentait bon. Ça disait plus qu'il sentait quelque chose. Il était ressuscité, il était revenu à la vie, malgré qu'on le sait scientifiquement, quand tes cellules, quand t'es mort, tes cellules commencent à mourir, t'as plus de vie dans ton corps, t'es en train de décomposer, puis là, il y a une odeur qui se dégage, puis surtout quand il fait chaud, ça va encore plus vite pour se décomposer, puis là, lui, il sentait déjà, puis il l'a ressuscité. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on croit en la puissance de Dieu. Lui qui a créé l'univers à partir du néant, du vide, il a créé toute la matière, il est capable de redonner la vie, à donner un corps en santé à quelqu'un qui est à mort depuis X mois, puis même X années. Dieu nous dit qu'il va nous ressusciter. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, Dieu y annonçait déjà la résurrection des morts dans l'Ancien Testament. On voit une promesse de cela dans Daniel au chapitre 12 au verset 2. Des centaines d'années avant Jésus, Daniel a une révélation de Dieu, puis il a prophétisé qu'il y aurait un jour une résurrection des morts. Il a dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, c'est nous. Les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Ça veut dire que les gens, ils vont être pleinement conscients et honteux d'être rejetés de Dieu, d'avoir l'opprobre ou la honte éternelle. C'est pas une destruction pour qu'ils pensent plus à rien, c'est une honte. Une opprobre, c'est le même sens que le mot honte, pour l'éternité. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. On voit que la vie éternelle va être d'une durée pour toujours, une durée à perpète. Le mot éternel, c'est ce que ça veut dire. Une vie sans fin. Le sujet de la résurrection, c'est encore les gens qui auraient pu dire, oh, ça c'est des promesses, c'est des théories, peut-être qu'ils parlaient dans un sens figuré, puis que ça ne veut pas vraiment dire que le monde va ressusciter. Il y en a qui tordent le sens des Écritures, puis ils vont dire des choses semblables. Mais le sujet de la résurrection, il est éprouvé par le Messie. C'est pas juste la théorie. Jésus l'a prouvé que ça existait. Puis qu'il a prouvé que Dieu avait la puissance pour ressusciter un mort. Ça dit qu'il est ressuscité lui-même. La Bible affirme que Jésus est ressuscité lui-même. Dans 1 Corinthiens 15, 21. Ça dit, puisque la mort est venue par un homme, en parlant d'Adam et Ève, à cause de son péché, la mort s'est étendue à tout le monde. Il dit, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Jésus en a donné la preuve lui-même, comme on l'a chanté tantôt. Si le même esprit que ressuscité Christ habite en vous, mais le même esprit redonnera la vie à vos corps mortels. Mais Jésus a été le premier à être ressuscité pour rentrer dans la présence de Dieu, puis à être installé là pour l'éternité. Il est le premier à être ressuscité par Dieu son Père. Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort. Ce n'est pas une mort juste clinique pendant quelques secondes, comme il y en a qui disent, j'ai eu une mort clinique pendant quelques secondes, puis il est revenu à la vie, puis là, il dit qu'il a vu des affaires. Non, 3 jours plus tard, qu'il est ressuscité. Lui-ci, il devait commencer à sentir, puis qu'il devait commencer à se décomposer, mais ça ne dérange pas Dieu du tout. Lui, il a la puissance de redonner la vie à un mort comme qu'il veut. Il a juste besoin d'y recommandement, puis paf, la personne est ressuscitée, puis ça va être de même pour la résurrection de tous les êtres vivants. Parce que, comme j'ai dit aussi un matin, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout le monde va ressusciter pour comparaître devant Dieu, pour avoir à rendre compte de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est pour ça qu'il est important d'aller à Jésus pour recevoir le pardon avant d'entrer là, parce que sinon, c'est un châtiment éternel, la honte éternelle, l'opprobre éternel. La résurrection fait partie de la base de la doctrine de la Nouvelle Alliance. Parler de la résurrection, ça devrait être aussi normal que dire que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. C'est aussi normal d'enseigner puis d'expliquer qu'il est ressuscité le troisième jour. Parce qu'il n'y a pas de résurrection, si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien d'être chrétien. S'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, continuons à vivre dans la débauche et dans le péché. Arrêtons de nous priver, puis let's go, on va se livrer à tout ce qui est devant nous. S'il n'y a pas de résurrection, tu n'auras pas besoin de rendre compte. C'est pour ça qu'il est important de réaliser que si Dieu nous a avertis d'avance qu'il y a une résurrection, puis c'est pas un qui écrit dans un verset, il y a bien des versets qui en parlent. C'est pour qu'on prenne ça au sérieux, puis qu'on se prépare, qu'on se dépêche à aller à Jésus pour être pardonné, puis après ça, se maintenir dans la foi en Jésus pour rester ferme dans la foi jusqu'à la fin sans se laisser détourner, parce qu'il y a bien du monde et bien des esprits qui travaillent pour essayer de nous faire débarquer. Ils ne veulent pas qu'on rentre. Lui, le diable, il est condamné. Il n'y a pas de pardon pour lui. Puis il sait qu'il n'y a plus grand temps où ce que Jésus va le prendre, puis il va le saisir, puis il va le jeter dans l'étang de feu. Il ne reste plus grand temps. Les années passent tellement vite, il sait que c'est son sprint final. S'il peut influencer des chrétiens à abandonner le chemin pour s'en aller être jugé à la même place que lui, il va être jugé. Il essaye tout pour amener le monde là. Mais la résurrection, croire en la résurrection, ça fait partie de la doctrine du Nouveau Testament. Dans tous les livres de la Bible, il en parle. Dans 1 Corinthiens 15, Paul, il l'enseignait. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout. » Les premiers points de base, quand il dit avant tout, ça veut dire c'est les premières choses que je vous ai enseignées. Il dit comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, parce que c'était écrit dans l'Ancien qu'il fallait qu'il meure pour nos péchés. Ça dit aussi qu'il a été enseveli, il a été 3 jours dans le sein de la terre, enseveli, il a été mis dans un sépulcre. Un tombeau, qui a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est encore une prophétie de l'Ancien Testament qui disait que Dieu permettra pas que son saint voie la corruption, puis qu'il était pour le sortir du séjour des morts. C'était écrit, prophétisé dans l'Ancien Testament que Jésus serait ressuscité. Puis, c'est pas rien que ça. C'est pas rien que le fait que Jésus a ressuscité. C'est qu'il est apparu à ses disciples pour leur montrer. Il a donné des preuves qu'il y avait une résurrection. Il est apparu à Céphas, ça c'est Pierre, et aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il y avait une réunion qui avait 500 personnes. Jésus est apparu là pour parler à tout le monde. Imaginez, dont la plupart sont encore vivants au temps où il écrivait ces textes-là, et dont quelques-uns sont morts. Après ça, en lisant le texte, ça dit qu'il est apparu à moi, parce que Paul qui écrivait ça, il a vu aussi le Seigneur qui était ressuscité. Paul, il était sur le chemin, puis s'en allait à Damas, pour aller persécuter des chrétiens, puis Jésus lui a apparu, puis là, il a dit, « Paul, Paul, Il te sera dur de... Pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Puis là, l'autre, il dit, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu, Seigneur? Là, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh! Il a vu Jésus, puis Jésus lui a parlé, puis pas juste une fois. Il a parlé à plusieurs reprises. Jésus a donné des preuves de sa résurrection. Dieu dit qu'il faut que nous sommes transformés en un autre corps. Parce que cette promesse-là, quand il nous dit à nous qu'on va ressusciter, c'est obligatoire, il faut qu'il nous change en un autre corps pour vivre la vie éternelle. Pourquoi? Parce que notre corps d'ici, là, c'est un corps corrompu. C'est un corps méchant. C'est un corps qui nous amène au péché. C'est un corps qui nous tire puis nous conduit dans des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu, il faut qu'il nous débarrasse de ce corps de chair-là pour nous donner un corps qui va être parfait. Un corps qui ne péchera plus. Un corps qui ne sera plus malade. Un corps qui va pouvoir vivre éternellement. Il s'usera plus. Il n'y aura plus d'usure, ses genoux, puis ses hanches, puis ses bras, puis avoir des muscles étirés, puis toutes ces affaires-là, ou des maladies qui arrivent, puis des souffrances, puis de nous paralyser. Ça fait, le corps physique, il est sujet à toutes ces faiblesses-là, mais pas notre corps éternel. Dieu veut pas qu'on passe l'éternité avec un corps qui nous attire dans le péché. C'est le principal. Dans 1 Corinthiens 15, 53, Saint-Paul nous dit, « Car il faut que ce corps corruptible, c'est un corps qui se corrompt, qui est corrompu facilement, ce corps-là, là, il y a des convoitises, il y a des désirs impurs, il nous inspire des pensées impures, puis surtout l'insouvenir de ce qu'il a vécu, puis ce qu'il voudra encore. Il cherche à nous conduire dans le péché. Mais ce corps corruptible-là, il faut qu'il revête l'incorruptibilité. Je sais pas si vous avez vu le film, quand on était jeune, c'était le film Les Incorruptibles. C'était des gens qui n'étaient pas corrompables. Des policiers qui n'étaient pas corrompables. Et même si les bandits essayaient de payer les policiers, eux autres, oublie ça. Ils ont vécu dans une période où il y a plein de choses défendues, puis eux autres ne se laissaient pas corrompre. Mais nous, on va être des incorruptibles dans tous les domaines. Dans le domaine de marcher dans la sainteté tout le temps. Ça va être extraordinaire. Fait qu'il faut que notre corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. On va être des immortels. Des gens qui ne peuvent plus mourir, ni mourir spirituellement, ni mourir physiquement. On va être des gens qui vont vivre éternellement. Une fois que tu es rentré là, tu es là pour l'éternité. Dieu nous promet de nous ressusciter dans un corps sans défaut et pleinement opérationnel. Comment est-ce qu'il y en a qui aiment ça se lever le matin, puis avoir mal dans le dos, puis avoir de la misère à se déplier? Je suis sûr qu'il y en a une couple qui connaissent ça. Il y en a qui ne le connaissent pas, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive. Mais ça, c'est les corps qui ont de la misère à être opérationnels. Puis on a de l'usure, puis on a de la fatigue, on a de l'essoufflement, on a des très grandes limites physiquement. L'autre bord n'aura pas de limite. Il dit dans 1 Corinthiens 15, 42, Paul continue à nous expliquer, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps, il est semé corruptible, comme je disais tantôt, il se corrompt facilement, mais il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, mais il va ressusciter glorieux. Il est semé infirme, il va ressusciter plein de force. » N'aura plus de faiblesse physique, des maladies, des souffrances de toutes sortes. N'aura plus de vieillissement. On va rester à un âge que Dieu aura fixé, puis qu'on va rester comme à cette apparence-là, tout le temps, sans usure. Il a été semé corps animal, il va ressusciter corps spirituel. S'il y a un corps animal, il va aussi avoir un corps spirituel. Ça veut dire que tous les humains ont un corps spirituel. Puis ils vont ressusciter, mais on ne sera pas tous à la même place, l'autre bord. Ça va dépendre si tu es pardonné ou tu ne l'es pas. Notre victoire définitive contre le péché et contre la mort sera totale à la résurrection de notre corps. On va avoir une victoire totale contre la mort puis contre le péché. Il n'y aura plus de péché dans nos corps. Puis il n'y aura plus de mort non plus. Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Le jour où on va être rendu là, c'est la victoire. Oui, on peut dire que déjà en Jésus, tu es déjà victorieux. Mais ça, c'est en théorie. C'est mais qu'on soit rendu là que tu es assuré à 100% de ta victoire. Parce qu'on a plein d'avertissements qui nous disent « persévérer dans la foi, marcher dans mes voies, demeurer en moi ». Ça, c'est qu'est-ce qui nous est dit afin qu'on rentre. Parce qu'il y en a qui s'égarent en cours de route. Ils ont connu puis ils ont abandonné. Mais nous, on ne veut pas abandonner. Mais quand on va être rendu là, il dit « la mort va être engloutie dans la victoire définitive ». Il n'y aura plus question d'avoir peur. Aussitôt que tu vois que j'étais auprès de Jésus, c'est un nuage, fais-toi-en plus, c'est fini tes troubles. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. T'es rendu. Puis c'est pour l'éternité. Puis là, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton épée, ton aiguillon? Parce que l'épée qui mène à la mort, c'est le péché. Ou ce qui est rendu le péché, il n'aura plus de péché dans nos vies. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Puis la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la victoire. Déjà, on peut se réjouir qu'on l'a, mais elle va être définitive au moment où on va rentrer l'autre bord. Yeshua a aussi dit que tous les humains sur cette terre ressusciteront. Mais c'est pas tout le monde qui entreront dans la présence de Dieu dans son ciel. Faut bien prendre conscience de ça. Puis ça va nous amener à prendre conscience qu'on a de l'ouvrage à faire pour avertir les autres, puis lui dire, va à Jésus pour être pardonné. Parce que si tu meurs sans Jésus, t'es fait. Dans Jean 5, 28, Jésus le dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres, parle pas juste si tu y crois. Tout le monde qui sont dans les sépulcres, c'est tout le monde qui sont enterrés depuis le début de la création. Il dit, ils vont entendre la voix du Seigneur, puis ils vont en sortir. Tout le monde qui sont dans les tombeaux vont sortir des tombeaux à la voix du Seigneur. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On voit clairement dans les Écritures qu'il y aura une séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le veulent pas. Parce que quand on fait l'analyse de tous ces versets-là, il y en a plein de versets qui nous parlent de tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai sorti comme les versets de ce que je voulais vous apporter. Il faut vous mettre l'accent et dire, il y en a une résurrection, mais sois sûr que tu es sur le bon bord, que tu es avec le Seigneur. On voit clairement qu'il va en avoir une séparation, parce que Jésus lui-même, qui est le Seigneur ressuscité, qui est en même temps l'avocat pour défendre ceux qui lui appartiennent, puis est en même temps le juge qui va juger les autres, il sait de quoi est-ce qu'il parle. Il a dit dans Matthieu 25, au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, » ça c'est à son retour, « il dit avec tous les anges, il va revenir, puis ça va être glorieux, puis tous ceux qui disent, « Ah, ça n'existe pas, achète-moi pas que ces niaiseries-là, ils vont le voir, mais il va être trop tard. » Ça dit qu'il va s'asseoir sur son trône de gloire. Puis toutes les nations qui sont assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres. C'est lui qui connaît ses brebis, c'est lui qui va faire le ménage, qui va séparer. Il va mettre ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dans cette chose-là, c'est pour nous parler de son jugement, pour discerner ceux qui lui appartiennent, pour les emmener avec lui dans son royaume, puis que les autres vont être rejetés. Il va séparer les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Moi, je vous encourage à aller lire la parabole au complet. C'est une parabole, mais ce n'est pas une parabole, c'est une prophétie. Il annonce le futur. Parce qu'il y a vraiment un jour ce qui va descendre du ciel avec ses anges, puis qui va trier, puis va ramasser les celles qui lui appartiennent, puis les autres ne rentreront pas. Puis ils vont avoir la honte de ne pas être de ceux qui ont rentré. Puis ils vont subir le jugement de Dieu sur la planète. Il va dire à ceux qui lui appartiennent, on voit ça au verset 34 de Matthieu 25, il dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Il ne parle pas juste du royaume terrestre, c'est de rentrer dans le royaume céleste. Prendre possession du royaume préparé dès la fondation du monde. La fondation de ce monde, le royaume terrestre, le royaume céleste, t'a déjà préparé en préparant le royaume terrestre. Dieu prépara déjà notre place pour qu'on rentre avec lui un jour. Son plan, il était déterminé avant la création du monde. C'est avant la création du monde que Dieu nous a choisis. Puis si vous êtes là assis en train d'écouter ce que Dieu dit à travers sa parole, là, c'est parce que vous êtes un appelé. Vous êtes un appelé, puis si vous avez répondu à l'appel, vous êtes un élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a entendu, qui a répondu à l'appel. Mais Dieu vous appelle pour être sauvé, parce qu'il vous aime, puis il veut vous amener avec lui dans sa vie éternelle. Il dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. J'ai-tu hâte que ça arrive? » Puis ceux qui ne le suivent pas, mais ils vont être rejetés. La porte va leur être fermée. C'est fini. C'est pour ça qu'il y a bien des fois, les chrétiens vont dire, « Manquez pas l'enlèvement. » Manquez pas le retour du Seigneur. Soyez prêts, que mec qui revienne, d'être prêts en lui. Dans Matthieu 25, au verset 41, il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. » C'est le Seigneur qui est la porte d'entrée, là. Puis ils viennent d'en faire entrer tous ceux qui croyaient en lui. Puis là, il dit aux autres, « Retirez-vous de moi, maudits. » Le premier groupe, il les appelle les bénis. Le deuxième groupe, il les appelle les maudits. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction de la loi. La malédiction qui a été donnée à Adam et Ève au début de la création. Ils sont sous le péché. Ils n'ont pas été pardonnés. Ils n'ont pas pu sortir de la malédiction. Ils sont encore sont encore maudits face à Dieu. C'est en allant à Jésus que tu peux être béni, pardonné, sauvé. Là, il lui dit, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. » On voit encore la durée d'éternité pour le jugement de ceux qui refusent d'aller au Seigneur pour être pardonnés. Un feu éternel qui a été préparé pour le diable puis pour ses anges. Le feu éternel qu'on appelle l'enfer, qu'on appelle le lac de feu, qu'on appelle l'étang ardent de feu et de soufre, il y a plein de versets qui parlent de ça, du jugement de Dieu éternel, là. Il n'a pas été créé pour les humains. Il a été créé pour le diable et ses démons. Il y a eu cette rébellion-là dans le ciel que les anges de Dieu se sont rebellés contre Dieu, puis ils ont voulu suivre Satan dans cette rébellion-là. Puis eux autres aussi sont sous la malédiction. Puis eux autres aussi, Dieu les a préparés une prison éternelle qui est appelée le feu éternel. Puis ça dit que le feu éternel, le temps de feu, était préparé pour le diable et ses démons. Sauf que Dieu va envoyer là aussi les humains qui ont suivi le diable et ses démons. Ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu, suivre Jésus, mais Dieu ne pourra pas rien faire contre eux parce qu'ils appartiennent déjà au diable. Dieu nous offre de nous sortir du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Il nous l'offre gratuitement. En croyant Jésus, il te pardonne, puis il te sort des griffes de Satan, puis il t'emmène dans son royaume parce que tu as choisi Jésus. Parce que tu choisis de suivre Jésus, il te pardonne. Puis il te sort, il t'exauce, il te sort de là. T'appartiens plus au diable après, mais les autres qui veulent pas sortir pour aller à Dieu, ils appartiennent encore au diable, puis ils vont aller dans le même jugement que le diable. C'est grave, parce que là-dedans, il y a du monde de nos familles qui s'en va là. Il y a de nos amis qui s'en va là, nos compagnons de travail qui s'en va là. Il y a de nos voisins qui s'en va là. Donc, les gens de la ville, où qu'on habite, s'en va là. Les gens de toutes les municipalités dans le Québec. Les gens de toutes les municipalités dans le Canada. Les gens de toutes les municipalités de la planète entière s'en vont là. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus pour être pardonnés. Puis, il y en a qui disent, achète-moi pas avec ta religion. C'est pas une religion qu'on leur offre. On leur offre le salut. On leur offre d'être pardonnés, de sortir des griffes du diable, de pas recevoir le jugement du diable, mais de recevoir la bénédiction de Dieu en allant à Jésus. La résurrection éternelle n'est promise qu'à ceux qui ont laissé entrer Yeshua dans leur vie. Jésus. Ça, le prochain verset que je vous lis, c'est la même idée que le chant qu'on a chanté tantôt. Le chant est inspiré du prochain verset qu'on va lire dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est quel esprit qui a ressuscité Jésus? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu qui est en Jésus l'a ressuscité des morts, habite en vous, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pour ça qu'il est important de laisser rentrer Jésus dans notre vie, laisser rentrer le Saint-Esprit, laisser rentrer Dieu dans notre vie pour que ce soit la vie de Dieu qu'on vive sur la terre, puis qu'on va faire partie des sauvés et de ceux qui appartiennent à Dieu. Lors de la résurrection, nous serons tous réunis avec le Seigneur et tous les autres élus. Parce que tous, quand je dis tous, c'est tous ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus vont être ressuscités, rassemblés avec Jésus et rassemblés avec tous les élus, tous les sauvés. On va être, il va y avoir pas mal de monde. Une multitude innombrable que Dieu nous dit. Une multitude innombrable qui va être sauvée, mais il y en a encore plus qui vont être perdus. Faut pas les oublier, puis ça, c'est pour nous mettre comme une idée. Faut faire de quoi, frères et sœurs, pour pouvoir les emmener. Parce que, pensez-vous qu'on va rire, qu'on va trouver ça drôle, ça, de voir ceux qu'on aimait pleurer, grincer des dents, puis vouloir, puis là... Tu sais, capoter, là, parce qu'ils sont rejetés de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Mais est-ce qu'on leur en a parlé suffisamment pour qu'ils comprennent? Est-ce qu'on a insisté pour qu'ils soient sauvés? Parce qu'il dit, contrains-les d'entrer. C'est une force. Puis Paul, il dit qu'il prêchait avec une pleine persuasion. Lui, il cherchait à convaincre. C'est de tout faire nos efforts, tout ce qui est dans notre possibilité de faire, de dire qu'est-ce qu'on peut dire, puis insiste en toute occasion, favorable ou non, pour amener le monde dans le bon chemin. Dans 2 Corinthiens 4, 14, ça nous dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ça veut dire, les avec vous, là, c'est avec tous les chrétiens. Il va nous ressusciter avec Jésus, pour être avec Jésus, mais pour être aussi avec tous les ressuscités. pour vivre une vie sans fin. Pour le moment de notre résurrection, ça sera au retour de Yeshua sur cette terre. Là, je n'ai pas tout expliqué ce qui se passe pour ceux qui sont en attente. Nous autres, on risque de possiblement d'être encore vivants, mais que Jésus revienne, parce qu'on avance dans le temps, puis ça s'en vient très vite. Les signes, les derniers signes sont en train de s'accomplir, mais on risque d'être encore vivants quand Jésus va revenir. Mais il y en a que ça fait déjà 2000 ans, qui sont morts 3000 ans, puis attendent le Seigneur. Mais quand Jésus va revenir, il va tous les ressusciter, puis il va nous amener, nous les vivants, en un clin d'œil, on va se retrouver avec eux autres pour être éternellement avec eux autres. Ça, c'est un mystère, ça. C'est quelque chose de caché. Oui, on croit à la résurrection, mais on ne comprenait pas tout. Tout le monde ne comprenait pas toutes les avenues que Jésus a expliquées. Mais Paul lui dit, il nous a parlé d'un mystère à propos de la résurrection pour les croyants. C'est révélé dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, 51. Paul, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. » C'est quelque chose, c'est un mystère. C'est quelque chose que le monde ne savait pas, mais les mystères ont commencé à être révélés par Jésus et ses apôtres. C'est un mystère-là, il a dit, nous ne mourrons pas tous. C'est un mystère-là, il a dit, nous ne mourrons pas tous. C'est quelque chose, on ne sait pas tout le monde qui va passer par la mort physique, mais il dit, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, en parlant des vivants, nous serons changés. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est un mystère caché de tous les temps, mais révélé par l'apôtre Paul, qu'il va y avoir une résurrection, puis c'est au son, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Lors de notre résurrection, nous resterons avec le Seigneur pour toujours. Dans 1 Thessaloniciens 4:17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, sur les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Tu n'auras plus besoin d'avoir peur, de crainte, puis etc. Puis là, le bon temps va commencer avec le Seigneur. Puis je finis avec un dernier verset qui nous explique, pour ceux qui seront avec lui, Dieu nous fera profiter de sa gloire. Dans Colossiens 3:3, ça nous dit, « Car vous êtes morts, puis votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Comme je disais tantôt, spirituellement, là, c'est comme si on est déjà quasiment rendu. Il reste rien qu'à se rendre physiquement. Mais il dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra à son retour, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Imaginez là, que dans un instant, on se retrouve sur un nuage. Ça arrivera là. Tard, on se retrouve sur un nuage avec le Seigneur. Waouh! On est dans les airs, là. Puis ça va illuminer parce que le Seigneur, lui, sa gloire, son visage rayonne comme le soleil. Les anges puissants, c'est comme un éclair qui va partir de l'Orient jusque dans l'Occident. Il va éclairer la terre de sa gloire. Puis nous, on va être au milieu de tout ça, au milieu de sa gloire. On va être nous-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, au début de la création, au début dans la prophétie de Daniel, que nous-mêmes, les croyants, on va briller. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Intelligents, c'est le monde qui ont compris que Jésus est mort, pardonné le péché, puis ils ont embarqué. Ça, c'est les intelligents. Ils vont briller comme la splendeur du ciel. Puis ceux qui auront enseigné, des prédicateurs de justice, mais eux autres, ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Il va nous faire vivre sa gloire. Ça va être spécial. Ça va être pour un moment terrestre pendant le règne du Christ sur cette terre, parce que Jésus va se réinstaller pour ce qu'on appelle le millénium, un règne de Christ sur la terre. Ce n'est pas des humains, parce qu'il y a une fausseté qui se véhicule présentement, qu'il y en a qui pensent qu'ils sont rentrés dans le millénium parce qu'un humain contrôlerait un pays pour essayer d'amener le monde il va amener la foi sur la terre, puis de marcher dans les voies de Dieu par la force des lois humaines. C'est pas ça du tout. Le règne de millénium, c'est le règne de Christ lui-même, en chair et en os, mais éternel. Il va s'installer, il va descendre, il va mettre ses pieds sur la montagne de Jérusalem, puis il va servir de Jérusalem comme siège social pour régner sur cette terre lui-même avec tous ses saints qui seront avec lui. C'est ce que les prophéties disent. C'est le règne de Christ descendu sur cette terre, puis ça s'en vient très bientôt. C'est pour ça que nous sommes les prédicateurs qui doivent annoncer le retour de notre maître. Puis il revient très bientôt. Le 2000 ans, il disait c'était bientôt. Nous autres, on peut le dire facilement, il revient très bientôt. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour nous encourager dans la foi à croire en ta résurrection et notre résurrection. Seigneur, tes promesses sont grandioses, puis nous sommes reconnaissants. Puis merci de te révéler, de révéler tes mystères, Seigneur, de révéler ta pensée sur ton plan, ce que tu as préparé, non ce qu'on pensait. C'est toi qui nous as averti d'avance tout ce qui va arriver. Puis merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous faire vivre dans la suite. Mais garde-nous dans ta main. On veut rester ferme dans la foi. On veut rester en toi, puis garder la foi jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Utilise-nous pour ta gloire. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.